Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours de quelques paraboles d'été, en ce dernier jour d'été, premier jour d'automne, comme vu le soleil, moi je dirais que c'est encore l'été, mais... Donc quelques paraboles d'été dans l'évangile selon Luc. Et donc on a vu d'abord une parabole d'économiste, ensuite une parabole de boulanger, ensuite une parabole de jardinier, et puis... une parabole de menuisier. Et aujourd'hui, c'est une parabole de chef cuisinier qui va retenir notre attention. Et comme chaque prédication de cette série, nous procéderons avec le même schéma. Alors, si on veut parler d'une parabole de chef cuisinier, il faudrait préciser ce que c'est la cuisine, voire peut-être la gastronomie. Un ami hollandais m'a dit un jour « Nous, les Hollandais, on mange pour vivre. Et vous, les Français, vous vivez pour manger. » Alors, dommage que notre pasteur franco-hollandais, Eric, ne soit pas là pour confirmer ou infirmer cet avis. Mais dans tous les cas, la cuisine, c'est l'art de préparer les aliments. Ou la gastronomie, c'est la connaissance de tout ce qui se rapporte à la cuisine, à l'ordonnancement du repas. On fait appel à un français un peu plus vieux, un peu plus ancien, un peu plus technique, et à l'art de déguster et d'apprécier les mets. Finalement, deux définitions qui montrent quelque part l'importance que l'être humain donne au repas, et pas seulement les Français. Même s'ils ont peut-être les meilleurs chefs cuisiniers, diront certains, l'importance que l'être humain donne au repas, à ces moments passés ensemble, à partager, que ce soit aujourd'hui au XXIe siècle, ou que ce soit il y a 2000 ans, où Jésus lui-même aime prendre des repas avec ses contemporains. Et après une définition, une personnalité. Alors, je vais être un tout petit peu chauvin. De mon lieu où j'ai grandi en tant qu'enfant, Valence, personnalité du jour, Anne-Sophie Pic, qui est chef cuisinière, elle a été élue meilleure chef au monde en 2011, et elle est actuellement la chef cuisinière la plus étoilée au monde. Elle a ouvert plusieurs restaurants, mais son chef-lieu, le départ, est à Valence, avenue Victor Hugo, dans la même rue mais que l'Église libre, d'ailleurs. Et elle est connue, Anne-Sophie Pic, pour avoir révolutionné la façon de cuisiner, en gastronomie, hein, c'est pas encore arrivé jusque dans nos cuisines, notamment en mettant en avant des locaux, que ce soit pour la cuisine ou pour les salles de restaurant, des locaux simples, épurés, plutôt blancs, lumineux. Et pour elle, je cite, la relation humaine est au centre de ma création. Sans les autres personnes, je ne suis pas grand-chose. Et justement, en parlant de relations humaines, je vous propose de lire ensemble une histoire que Jésus raconta avec les personnes avec lesquelles il partageait un repas. Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des dirigeants des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il leur dit alors une parabole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne t'installe pas à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'une personne plus importante que toi ait été invitée et que celui qui vous a invité l'un et l'autre vienne te dire « Laisse-lui cette place. » Alors, tu devrais, tout honteux, te mettre à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, installe-toi à la dernière place. pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, rapproche-toi des meilleures places ». Ce sera pour toi une marque d'estime devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien ressusciteront. Amen. Alors d'abord, quelques mots de contexte. Vous vous souvenez, c'est un contexte à deux niveaux dont on a besoin pour mieux comprendre cette histoire. D'abord, il faut se rappeler de cette époque du 1er siècle de notre ère, où ces pharisiens sont des hommes de loi, des rabbins de l'époque, et ils insistaient sur la question de la pureté. Pour eux, toute la vie du croyant juif était réglée par des lois de pureté. De la cuisine aux relations sociales, en passant par les sacrifices, tout devait être pur. Tout devait être lavé, propre. Peut-être seraient-ils aujourd'hui les champions de l'hygiène dans les restaurants. Ils en auraient peut-être bien besoin. Mais il faut dire aussi que, en ce temps-là, le placement lors des repas autour des tables ne se faisait pas n'importe comment. Les personnes les plus importantes et les plus riches étaient assises au plus près de celui qui invitait. Ensuite, l'autre contexte qu'il faut prendre en compte, c'est celui du livre dans lequel on trouve cette histoire. Et l'auteur de ce livre place cet épisode au beau milieu d'une série de paraboles, d'histoires, ou plutôt au début d'une deuxième série d'histoires, parce que juste avant, à la fin du chapitre 13, Jésus dit aux pharisiens qu'ils ne le verraient plus jusqu'à son entrée à Jérusalem. Or, il va passer les 5-6 chapitres suivants à parler et à manger avec eux. Drôle de façon de plus se voir. Mais c'est comme si l'auteur voulait en rajouter une couche. Comme si l'auteur voulait, de nouveau, avec ses paraboles, ses histoires, faire penser le lecteur et le faire réfléchir sur les enseignements de Jésus. Alors, on résume les personnages de notre histoire. Il y a Jésus, bien sûr. Il y a ces pharisiens qui sont à table avec peut-être d'autres invités. Et puis, il y a ceux qui sont assis aux premières places. Et logiquement, il y a ceux qui sont assis aux dernières places. Alors, le temps d'une critique. Et surtout en gastronomie, on connaît les critiques. Vous avez peut-être vu Ratatouille, hein, avec ce fameux critique qui vient goûter la cuisine. Alors, mettons-nous dans la peau d'un chef cuisinier. Que dirait par exemple Anne-Sophie Pic de la façon dont les pharisiens s'occupent de cette salle de restaurant, de ce repas? Et si on y réfléchit bien, le véritable chef cuisinier dans l'histoire, ce n'est pas ce pharisien qui a invité Jésus. Ce n'est pas non plus, même si elle est excellente en la matière, ce n'est pas non plus Anne-Sophie Pic. Le véritable chef cuisinier dans l'histoire, c'est bien Jésus. Et son analyse, sa critique, elle est fine et perspicace. Et il pointe trois failles chez ses auditeurs. La première, c'est l'arrogance. Les pharisiens ne pensent même pas qu'il pourrait y avoir quelqu'un de plus important qu'eux qui soit invité au repas. Je ne sais pas pour vous, mais là j'ai une image qui me vient en tête. C'est celle qu'on voit dans ce magnifique film avec Denzel Washington, Le plus beau des combats. L'image de ces jeunes footballeurs américains blancs qui voient arriver à leur tête un coach noir à la tête de leur équipe avec en plus des joueurs noirs. Ils sont prêts à tout pour garder leurs privilèges dans cette société où le racisme fait rage, comme leur place dans le bus. Et ils le font avec une arrogance incroyable. Le talent, les compétences du coach, des autres joueurs, leur gentillesse, leur humanité tout simplement, ne suffit pas. Ils sont arrogants. Et seul un miracle dans cette histoire arrivera à faire cesser cette arrogance. Alors on aurait pu penser aussi à ce monsieur Septime, ce chef cuisinier interprété par Louis de Funès dans Le Grand Restaurant. Arrogant parce que pensant que c'est lui qui a toujours la meilleure solution par rapport à ses serveurs. Deuxième faille, c'est l'orgueil. Vous me direz, ça va bien avec l'arrogance. Et oui, parce que ces pharisiens-là, qui étaient là, s'ils pensent qu'ils sont toujours les meilleurs, ils aimaient aussi le montrer à tout le monde en prenant les meilleures places. En montrant aux autres qui sont les plus importants, qui sont les meilleurs, les plus riches, sans penser à ceux qui les entourent. Et là, l'image qui me vient en tête, c'est celle de Sauron, qui, dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, est prêt à tout. Prêt à tout pour retrouver toute sa force, pour avoir toujours plus de pouvoir, toujours plus de puissance face à son créateur qu'il veut détruire. Ça nous rappelle peut-être quelque chose. Troisième faille que Jésus pointe, c'est la cupidité. Ces pharisiens qui sont là à table sont loin d'être prêts à donner gratuitement à manger à ceux qui n'ont pas de quoi payer. Et d'ailleurs, Jésus leur reprochera à de nombreuses reprises. Et l'image qui me vient en tête, et je l'ai déjà utilisée plusieurs fois pendant cette série, mais je vous avoue que j'aime beaucoup cette bande dessinée, c'est Picsou. Picsou qui amasse son argent dans son coffre-fort, dans sa maison, et qui en veut toujours plus, et rien que pour lui seul, et même pas pour son neveu Donald qu'on voit à la porte. Mais heureusement, Jésus ne s'arrête pas là. Jésus ne s'arrête pas aux critiques et aux constats, parfois amers ou difficiles à avaler quand cela nous concerne. Et Jésus, en bon chef cuisinier, en bon chef de rang, donne des conseils. Et l'auteur de ce texte souligne bien ces conseils. Il en donne trois. Premier conseil, Jésus veut changer les places. Tel un chef qui place au mieux ses clients, Jésus donne le conseil suivant. Installe-toi à la dernière place pour que, au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, rapproche-toi des meilleures places ». Alors soyons clairs, Jésus ne promet pas ici une meilleure place sociale, un meilleur travail ou un compte en banque bien rempli. Jésus prend justement à contre-pied cette façon de penser. Parce qu'en réalité, qu'importe notre statut social, nous sommes tous invités à sa table. Qu'importe que nous soyons chrétiens depuis des années ou que nous découvrions tout juste la foi chrétienne, nous avons toujours une place à sa table. Parce que ce placement, le placement que Jésus nous propose, ne dépend pas de notre statut social, de notre genre ou de notre origine. Nous sommes tous invités. Et si Jésus nous montre que des places doivent être changées, c'est peut-être aussi parce que C'est notre rôle, ça peut être notre rôle de favoriser ce changement. Notre rôle en tant que chrétien d'inviter tout le monde à notre table. Qu'importe le statut social, le genre ou l'origine. Deuxième conseil, Jésus veut nous inviter dans son restaurant, mais il veut aussi pouvoir manger chez nous. Oui, tel un chef cuisinier finalement très humble, Jésus ne fait pas qu'inviter les gens à venir chez lui, où il pourrait montrer l'étendue de ses talents, magnifique salle de réception. Au contraire, il accepte l'invitation d'aller manger chez un pharisien. Il accepte de rentrer dans le quotidien des gens, même si ce repas devait certainement être bon. Hein. Alors oui, ce qu'on a vécu, ce passé parfois lourd, qui peut-être nous pèse encore, cette culpabilité qui peut parfois nous retenir, Jésus n'en a que faire. Il vient chez nous. Il nous rejoint dans notre quotidien, dans nos joies, dans nos peines, dans nos réussites et dans nos difficultés. Et il a rejoint l'humanité dans son quotidien en venant il y a 2000 ans. Quelle preuve d'amour! Alors, troisième conseil, et ça, j'en suis sûr qu'on va l'aimer. Jésus veut nous offrir le repas. Et c'est un conseil révolutionnaire qu'il donne finalement aux pharisiens. Déjà, Jésus leur dit qu'il ferait bien de ne pas inviter leurs amis riches. Alors, même s'il les invitait gratuitement, hein, Jésus ne vient pas là avec ses disciples en payant sa place. Mais il y avait forcément un retour sur investissement, avec peut-être les discussions de business qui devaient se faire autour du pain trempé dans la sauce, mais aussi parce que c'était une coutume d'inviter à notre tour celui qui nous avait invités. Et en disant ça, Jésus, quelque part, leur enlève leur retour sur investissement qu'ils espéraient, et il en rajoute même une couche en disant qu'il devrait inviter les pauvres, les malades, les aveugles, tous ceux-là qui, justement, ne pourront jamais, jamais leur rendre quoi que ce soit. Ils ne pourront jamais les inviter chez eux. Ils n'ont pas de chez eux, peut-être. Ils ne pourront pas leur apporter de retour sur investissement. Eh bien ça s'appelle de la justice et de l'amour. Et finalement, c'est tout ce que Jésus a essayé de montrer aux pharisiens. La volonté de Dieu, c'est cette justice, c'est cet amour. Ce n'est pas un millier de règles de pureté et de bien faire les choses. Ce n'est pas de donner l'enseignement de prendre soin des pauvres, mais de les rendre encore plus pauvres le lendemain par notre comportement. Jésus est en train de leur montrer finalement ce qu'ils devraient enseigner et faire. Alors malgré tout, les conseils du chef cuisinier Jésus sont à appliquer à deux niveaux différents. Mais ils nous emmènent vers une finalité, vers un objectif final. Premier niveau, c'est celui de notre quotidien, de notre vie sur terre, parce qu'en tant qu'apprenti cuistot, en apprentissage et surtout à la suite du Christ, la façon dont nous voyons la cuisine peut tout changer. Si nous la voyons pour nous-mêmes seulement, si nous la voyons seulement pour les autres, ceux qui sont importants là-bas, ceux qui sont purs, parce que moi je ne le suis pas du tout, je n'y ai pas le droit, ou bien si nous voyons la cuisine comme étant d'abord un lieu de partage pour tous, indépendamment de l'origine ethnique, du genre, de l'orientation sexuelle, de la religion, du statut social. La cuisine, Dieu la partage à tous, pour chacune et chacun d'entre nous, mais aussi pour chaque être humain. Le deuxième niveau, c'est celui de notre vie en présence de Dieu, sur une terre renouvelée. Alors, qu'on se le dise, même si Les restaurants français sont sans aucun doute les meilleurs. Un petit peu de chauvinisme. Et même si Anne-Sophie Pic est l'une des meilleures chefs cuisinières au monde, Dieu a autre chose en tête qu'un bon plat et qu'une belle table. Dieu a en tête l'avenir et l'espérance qu'il propose à l'humanité, eh bien, c'est un jour de vivre toujours en sa présence, de pouvoir partager cette vie avec lui où il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances, plus de tristesse causée par l'arrogance, l'orgueil et la cupidité, causée par l'amour de soi plutôt que l'amour du prochain et le besoin des autres, pour reprendre la citation d'Anne-Sophie Pic, le Christ lui-même sera là avec nous. Et en cela, Jésus est le chef cuisinier idéal. Il est le chef de rang idéal. Il est ce chef cuisinier vers qui on peut venir pour poser nos questions sur tel ou tel ingrédient ou sur le mode de cuisson le plus adapté pour faire le caramel. Très dur à faire, d'ailleurs, en tout cas pour moi. Mais il est aussi celui que nous pouvons suivre en aimant notre prochain, en préférant partager plutôt que de tout garder pour soi. Et il est aussi ce Dieu qui nous aime. Chacune, chacun d'entre nous, il est celui qui nous invite, chacune et chacun, à sa table, à la meilleure cuisine du monde. Et il nous invite sans nous faire payer. Son restaurant est gratuit. Il est celui qui est venu vivre avec nous, pour vivre avec nous dans le partage. Amen.